Le titre du message de ce soir, c'est la lettre aux Éphésiens, lettre à l'église d'Éphèse, je voulais dire. C'est une lettre qui a été envoyée par le Seigneur, mais par l'intermède de Jean, qui était à cette époque-là prisonnier des Romains. Et cette lettre à l'église d'Éphèse, est-ce qu'elle nous parle encore aujourd'hui? Est-ce que cette lettre qui a été envoyée à l'église d'Éphèse nous concerne aujourd'hui? D'où le titre de ce message, Lettre à l'église d'Éphèse. Est-ce aussi pour l'église d'aujourd'hui? Je vous prierai de prendre avec moi, pour ceux qui ont leur Bible, Apocalypse, chapitre 2, les versets 1 à 7. Apocalypse 2, 1 à 7. Il est dit ceci. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des sept chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail, et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi, pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et jeterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Voilà la lettre qui est adressée par le Seigneur à l'église d'Éphèse. Cette lettre est la première d'une série de sept qui sont adressées toujours par le même canal, c'est-à-dire par l'intermède de l'apôtre Jean, aux sept églises d'Asie. Comme nous pouvons le voir dans les deux chapitres d'Apocalypse, c'est-à-dire le chapitre 2 et le chapitre 3. Si vous avez du temps, même après ce message, vous pouvez les lire pour avoir tout le contexte. Si cette première lettre a été adressée à Éphèse, les autres le seront à d'autres, c'est-à-dire à l'église de Smyrne, l'église de Pergame, de Thyatire, de Sardes, de Philadelphie et de Laodicée. Et pour ce qui est du contexte historique de toutes ces lettres, nous savons que l'apôtre Jean, qui était le serviteur du Seigneur, qui a suivi le Seigneur et qui, après la mort et la résurrection du Seigneur, a continué à travailler pour le Seigneur, a travaillé pour répandre la bonne nouvelle, s'est vu arrêté par les Romains, persécuté par les Romains et exilé sur une île hostile qu'on appelait l'île de Patmos. Cette île, c'était en fait une prison à ciel ouvert. Et à ciel ouvert, je voulais dire, bordée de rivières, bordée d'eau. Et il n'y avait pas moyen de s'y échapper. Et l'Empire romain y exilait des brigands de grand chemin, des meurtriers, et aussi des chrétiens, ensemble avec des meurtriers, ensemble avec des brigands, parce que, semble-t-il, les Romains pensaient que les chrétiens représentaient un grand danger pour leur royaume, alors que les chrétiens ne demandaient qu'à vivre en paix, à servir leur Dieu paisiblement. Voilà pour le contexte historique. L'apôtre Jean s'est donc retrouvé sur cette île hostile. C'est bien sûr dans cette situation difficile que le Seigneur va choisir pour visiter son serviteur. Et vous allez voir que c'est aussi dans cette situation de persécution extrême que le Seigneur va faire une des plus grandes révélations divines de l'histoire du christianisme. Donc il va aller à la rencontre donc de Jean et il va lui faire toutes les révélations que nous avons aujourd'hui compilées sous le livre de l'Apocalypse. Et bien sûr, Jean était banni sur cette île à cause de l'Évangile, à cause de son implication, à cause de son zèle pour l'Évangile. Et bien sûr, il aurait pu peut-être se révolter contre Dieu en disant, mais j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, mais je me retrouve sur cette île hostile. Mais il ne l'a pas fait. Il a continué à honorer le Seigneur. Il a gardé la foi. Il a gardé son regard, non pas sur les épreuves qu'il traversait, il a gardé son regard sur le Seigneur. Il n'a pas pensé une seule seconde que le Seigneur l'avait abandonné, malgré la dureté de la situation. Il s'est tenu sur la parole de Dieu, selon Matthieu 28, au verset 20, où le Seigneur promet à tous ses enfants d'être avec chacun d'eux, tous les jours, sans exception, jusqu'à la fin des temps. Le Seigneur est avec chacun de nous. N'en doutons pas, quelles que soient les épreuves par lesquelles nous passons, quelle que soit la dureté de la situation, le Seigneur est avec nous tous les jours jusqu'à ce qu'il revienne. Donc, l'apôtre Jean avait continué à entretenir cette relation passionnée avec le Seigneur, cette relation de qualité avec son Dieu, donc malgré l'épreuve qu'il traversait. L'épreuve ne l'a pas éloigné du Seigneur. Je pense même que l'épreuve l'a rapproché du Seigneur, quand on voit ce que le Seigneur lui a confié après comme révélation. Ça veut dire qu'il a travaillé sur sa relation avec le Seigneur. Oui, c'est ici une leçon aussi pour nous, enfants de Dieu. Quand nous traversons par des situations difficiles, prenons garde que ces situations difficiles ne nous éloignent pas du Seigneur. Que ces situations difficiles, bien au contraire, nous rapprochent du Seigneur, que nous puissions nous accrocher, espérer. Il n'y a aucune situation qui soit au-dessus de ce que le Seigneur peut opérer comme miracle, comme nous venons de chanter, c'est le Dieu de miracles. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait hier, il le fait encore aujourd'hui et le fera encore demain. C'est le Dieu de victoire. Et bien sûr, Dieu a vu le cœur de cet apôtre. Et il a choisi donc ce moment pour s'approcher de lui et de lui faire et lui confier cette révélation. Et cette révélation aujourd'hui encourage tout le peuple de Dieu. Et ce fut déjà le cas, même dans les premières églises. Parce que un homme, Jean l'apôtre, a été fidèle à son Dieu. Nous sommes au bénéfice de cette fidélité. Au cœur de l'épreuve, il n'a pas fléchi, il a tenu bon. Et le Seigneur lui a fait une visitation. Il lui a confié donc cette révélation qui nous encourage aujourd'hui. Et bien sûr, l'importance de cette révélation n'est plus à démontrer, puisque quel livre mieux que l'Apocalypse aujourd'hui, n'est-ce pas, nous montre notre destination finale. Notre destination finale, c'est la félicité éternelle. Quand nous serons face à face avec notre Dieu, quand il reviendra nous prendre. Et ceci est renforcé par cette révélation qu'a reçue l'apôtre Jean. Et ceci nous montre aussi que le Seigneur peut choisir de se révéler à quiconque, dans n'importe quelle situation. Vous voyez que l'apôtre n'était pas dans un palace à ce moment-là. L'apôtre n'était pas au bord de la plage avec des lunettes noires, non. En train de se bronzer, non. Il était au cœur de l'épreuve. Et c'est là que le Seigneur a choisi de le visiter. Donc le Seigneur peut choisir même l'épreuve pour nous visiter. Soyons attentifs, même au cœur de l'épreuve. Il peut nous interpeller. Toutes ces circonstances que le Seigneur met devant nous, que ce soit des bonnes ou des mauvaises, selon nous, peuvent servir au Seigneur, peuvent servir à ramener les cœurs au Seigneur, peuvent servir à nous fortifier dans notre marche avec le Seigneur. Oui, que Dieu nous aide à traverser les épreuves tout en lui restant fidèles. Que l'épreuve ne nous éloigne pas du Seigneur, de notre Dieu, mais que les épreuves nous rapprochent plutôt de notre Dieu. Je pense que c'est la leçon que nous pouvons tirer de cette introduction, de ce livre l'Apocalypse, parce que nous avons l'habitude de le lire rapidement, peut-être sans nous arrêter sur les circonstances de sa révélation. C'était au cœur de la tempête. Mais le Seigneur utilise toutes les situations pour se glorifier. Si nous revenons maintenant à l'église d'Éphèse, cette église d'Éphèse que nous venons de voir ici est la destinatrice de la lettre. Et dans cette lettre, donc, il y a un diagnostic détaillé qui est fait par rapport à la vie spirituelle de cette église. Ce diagnostic va montrer des points forts, bien sûr, mais aussi quelques reproches de la part du Seigneur. Nous sommes au mois de décembre, nous avons passé toute une année. Je venais de parler avec le pasteur, je disais, mais je n'ai pas vu passer cette année, elle a été trop rapide. Mais en fin d'année aussi, c'est le temps de peut-être des bilans, des diagnostics, pour voir un peu sur cette année comment nous avons évolué avec notre Dieu, comment nous avons cheminé, peut-être que nous avons pris des engagements, voir un peu si ces engagements ont été atteints avec le Seigneur. Peut-être c'est le temps aussi de bilan. Permettre au Seigneur de nous écrire une petite lettre pour faire le diagnostic de notre situation, comme il a fait jadis avec l'église d'Éphèse. Et bien sûr, quand nous permettons à Dieu de nous faire un diagnostic, notre propre diagnostic, bien sûr, il le fera, parce qu'il n'attend que ça. Et c'est ce qui s'est passé avec l'église d'Éphèse. Et cette église d'Éphèse, selon la lettre qui lui a été écrite, c'était une église persévérante. Vous voyez, c'était une église, quand on regarde au prime abord, qui n'avait presque rien à se reprocher. C'était une église persévérante. C'est une église qui était ancrée dans la prière, dans la parole de Dieu. C'était une église de service. Merci pour les frères qui servent le Seigneur dans cette église. C'est pour la gloire du Seigneur. C'est pour que l'œuvre de Dieu avance. Le Seigneur voit ce que vous faites. Et c'était dans cette église d'Éphèse, avait même supporté la persécution. Vous savez, à cette époque-là, l'église était persécutée. Ils avaient accepté la persécution. L'église était aussi vigilante parce que cette église d'Éphèse avait éprouvé les faux apôtres, les faux prophètes. C'est ça l'avantage de connaître la parole de Dieu, l'avantage d'être versé dans les Écritures. Parce que quand nous sommes versés dans les Écritures, avec les cours INSEE, etc., nous avons des armes, nous sommes outillés pour pouvoir éprouver même les faux prophètes, même les faux apôtres qui pourraient venir vers nous avec des paroles quelquefois mielleuses, mais des tristesses de la foi. Oui, l'église d'Éphèse avait éprouvé les faux prophètes. Tout simplement parce qu'ils étaient nourris, comme nous sommes nourris chaque fois, le mardi. Nous sommes nourris, les dimanches nous sommes nourris, et par les enseignements de toutes sortes. Et tous ces enseignements fortifient notre foi et nous gardent vigilants, parce qu'aujourd'hui, il nous faut être plus que jamais vigilants par rapport à tout ce qui nous vient, même sur les réseaux sociaux. Je me rappelle, j'ai regardé dernièrement une vidéo d'un pasteur qui accusait tous les autres pasteurs. Pour lui, tous les autres pasteurs étaient des faux pasteurs. Et il était le seul pasteur. Il y en a sur les réseaux sociaux. Mais nous devons être vigilants. Et bien sûr, l'église d'Éphèse avait rejeté ces faux enseignements, notamment les enseignements venant des Nicolaïtes, comme il est écrit dans Apocalypse 2:6, les Nicolaïtes. Quand j'ai lu, j'ai cherché, j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ces Nicolaïtes? Et selon les commentaires bibliques, sans doute ce sont des personnes qui avaient suivi Nicolas d'Antioche. Ce Nicolas d'Antioche, qui était parmi les sept premiers diacres de l'histoire de l'Église. Donc, ils avaient suivi Nicolas, mais bien sûr, tout se passait très bien dans les premiers temps. Mais après, ceux qui avaient suivi, après bien sûr, sans doute, la disparition de Nicolas, ils avaient dévié, ils avaient apporté le paganisme dans l'Église. Nous pouvons dire peut-être que ce sont des choses qui se passaient à un autre temps. Mais aujourd'hui encore, si nous ne faisons pas attention, si nous ne sommes pas vigilants, nous pouvons rapatrier dans l'Église des comportements que nous avions dans le monde. Si nous ne faisons pas attention, donc nous devons rester vigilants, être comme ces chrétiens de Bérée, qui examinait les enseignements qu'il recevait afin de voir qui correspondait bien aux Écritures, comme dit Acte 17, les versets 10 à 11, les chrétiens de Bérée. Voilà l'église d'Éphèse. Décrit comme ça, on pourrait dire, oui, c'était une église parfaite. Mais, cependant, un reproche leur est fait. Quel est ce reproche? L'église d'Éphèse avait abandonné son premier amour. L'église d'Éphèse a abandonné son premier amour. L'amour, en fait, c'est ce qui caractérise, n'est-ce pas, la première église de l'histoire. C'est l'amour qui caractérisait. C'est-à-dire qu'ils avaient cet engagement avec le Seigneur. Mais cet engagement s'était distendu petit à petit au cours du temps. Ils avaient aussi une foi sans faille au début de l'histoire de l'Église. Mais cette foi avait peu à peu faibli. Ils avaient aussi ce zèle pour l'Évangile, pour aller annoncer l'Évangile de Dieu. Mais ce zèle, au fil du temps, avait diminué petit à petit. Cet amour qu'ils avaient, dès le premier temps, c'était refroidi. Vous savez, le refroidissement de l'amour aussi est une des caractéristiques des temps de la fin. Parce que Matthieu 24, les versets 11 et 13 disent que l'amour du plus grand nombre se refroidira. Parlant des temps de la fin, l'amour du plus grand nombre se refroidira. C'est un indicateur. Oui, l'église d'Éphèse avait abandonné son premier amour. Et Jean, dans 1 Jean, le chapitre 5, verset 3, il est bien dit que aimer Dieu, c'est s'attacher à ses commandements. Aimer Dieu, c'est s'attacher à ses commandements. Donc aimer Dieu consiste à garder les commandements de Dieu. Et j'aime bien la suite, puisqu'il est écrit, « Et ses commandements ne sont pas pénibles. » Parce que nous savons que c'est pour notre bien. Amen. Et nous savons, nous servons un grand Dieu. L'église d'Éphèse s'était refroidie quant à l'amour pour Dieu et aussi quant à l'amour pour les frères. C'est ce qui leur est reproché. Et ce qui était arrivé à l'église d'Éphèse peut encore arriver dans l'Église d'aujourd'hui. C'est pour cela que les enfants de Dieu doivent veiller afin de garder leur lampe toujours allumée comme les vierges sages de Matthieu 25, versets 3 à 4, qui dit « Ces vierges avaient gardé de l'huile pour leur lampe, alors que les vierges folles avaient pris des lampes sans huile. » Oui, les vierges sages sont des chrétiens intègres, prévenants, s'assurant qu'ils ont toujours de l'huile dans leurs lampes, toujours et toujours. Ce sont des serviteurs et servantes qui sont sérieux avec l'œuvre que le Seigneur leur a confiée. Cette œuvre qui contribue à l'avancement du royaume de Dieu. Oui, les enfants de Dieu doivent s'attacher à la parole de Dieu et veiller sur leur voie, comme dit le psalmiste. Le psaume 119, le verset 105 dit ceci, « La parole, ta parole, est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. » La parole de Dieu qui est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. De plus, l'amour dont il est question ici est un gage de témoignage chrétien. Le gage du témoignage chrétien. Le Seigneur Jésus lui-même dira que c'est par l'amour que le monde saura que vous êtes mes disciples. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez l'amour les uns pour les autres. Mais bien sûr, après ce constat, ce diagnostic, le Seigneur va donner un avertissement à l'église d'Éphèse. Il va lui montrer comment normaliser à nouveau sa relation avec lui. Vous savez, notre Dieu est un Dieu compatissant. Il est riche en bonté et en miséricorde. Il n'a pas fait un reproche. Il ne s'est pas arrêté au reproche. Mais il leur a montré comment faire pour revenir à lui. Souviens-toi où tu es tombé et repens-toi. Souviens-toi où tu es tombé et repens-toi. Et à nouveau, pratique tes premières œuvres. Le Seigneur ne met pas dehors celui qui vient à lui. Il ne met pas dehors celui qui vient à lui. Surtout si la personne vient avec un cœur repentant. Amen. Que celui qui a des oreilles entende ce que dit l'Esprit aux églises. Alors cette phrase voulait dire que pour répondre à l'interrogation du titre du message, vous voulez dire tout simplement que la lettre à l'église d'Éphèse n'était pas uniquement destinée à cette église. Elle était destinée. Elle est aussi destinée aujourd'hui à toutes les églises, à tous les chrétiens du monde entier. L'ensemble des chrétiens est concerné. Quelle que soit l'époque et quel que soit le lieu. Donc, Toulouse-Ouest, vous êtes concernés par cette lettre. Si dans le message, vous êtes retrouvé dans une des situations, c'est que le Seigneur vous a parlé. Donc, le Seigneur vous attend. Si quelque part nous avons abandonné notre premier amour, le Seigneur nous demande tout simplement de revenir à lui avec un cœur repentant. Il est compatissant et il va nous accueillir. Nous avons un avocat auprès du Père, le Seigneur Jésus lui-même, qui attend quiconque vient à lui avec un cœur repentant. C'est ainsi que nous ferons partie des vainqueurs dont il est écrit, celui qui vaincra, je lui donnerai à manger de l'arbre de vie. Oui, la couronne de la vie éternelle est réservée aux vainqueurs en Christ que nous sommes. Soyez bénis. Amen.